Armand Silvestre, conte audacieux. Gasconnade. Crénom de nom, je l'aurai. Et mon ami Pérolade posa son fusil dans un coin. Gloriette, fit-il ensuite, une romaine, cette sacrée chasse m'a donné une soif d'enfer. Gloriette apparut. Une superbe créature de là-bas, avec des cheveux noirs légèrement embroussaillés sur le front, mais naturellement, comme une toison sauvage, avec des yeux d'un bleu sombre fortement frangés comme par les cils, une bouche charnue et rouge comme un gros bigarreau, remarquable encore par une blancheur éclatante de peau, à peine ambrée à la nuque, dans ce qui est visible au moins de sa tentante personne. Et c'est tout? Non pas. Nous citerons encore à son actif une gorge sans exagération, dans sa fermeté évidente, et une croupe non moins ostensiblement ferme, dans sa non moins évidente exagération. De quoi rire, enfin, pour un homme de bien. Il faut pourtant se consoler de la politique. Or, je ne sais rien de mieux pour cela qu'une vaillante créature avenante au déduit. La femme est traitée de vase d'élection, dans les litanies évangéliques. Palsambleu. Voilà bien l'urne que je choisis pour mes dévotions électorales. Et je voterai aussi souvent qu'on voudra. Mais j'en reviens à Gloriette. Moitié dame, moitié demoiselle, gouvernante d'un vieux garçon ayant mon âge, c'est-à-dire ayant une vingtaine d'années de plus qu'elle. Pérolade s'imagine qu'il sauve les apparences, et que tout le monde ignore qu'il couche avec elle, parce qu'il lui dit « vous », et l'envoie scrupuleusement à la messe. « C'est pour sa famille ». Dit-il, qu'il sauve les apparences. Sa famille, c'est un tas de neveux qui se fichent joliment de lui. Quand, dans l'orgeat versé avec onction, le rhum eut mis sa coulée d'or fauve, car la romaine que nous buvons à Toulouse se fait ainsi, Pérolade trinqua avec moi, huma le liquide et reprit. Ce sera toi qui le mangeras. Et avec une irritation de chasseur nerveux, il me parla d'un cul blanc qui se moquait sensiblement de lui, comme s'il eût été aussi son neveu. Le grand jardin de Pérolade, si au faubourg Saint-Cyprien, descend en effet presque jusqu'à la Garonne, et les oiseaux aquatiques en viennent effleurer quelquefois les maigres saules, tandis que dans l'intérieur des parterres, les becs fins, fauvettes, rouges-gorges, mûriers, s'acharnent aux figues effondrées. Mon ami qui tient beaucoup à ses figues avait voué une haine épouvantable à tous ces innocents animaux et les mitraillait à petits plombs avec délices. C'est tandis qu'il se livrait à cette occupation que le cul blanc lui avait passé deux ou trois fois devant le nez, pareil à une petite pelote de neige lancée en zigzag sur son chemin. Et il ajouta « Ce sera pour ton dîner. C'est la nourriture délicate qu'il faut à ton estomac délabré par la nourriture parisienne. » Ah, pauvre, que tu as tort de ne pas rester au pays comme moi. Tu aurais vécu 20 ans de plus. Disant cela, il me regardait avec une compassion qui m'inquiéta. Avais-je donc l'air d'un moribond? C'est une des marottes de Pérolade, d'ailleurs, de me faire toujours sentir que je n'irai pas loin. Ça lui rend plus douce à lui-même l'idée de vieillir infiniment. J'étais rentrée en le remerciant sur ses bonnes paroles. Je connais mes compatriotes. Ils promettent volontiers pour dire des choses aimables. Je commandais donc mon dîner comme si rien du dehors ne devait en compléter le menu. Aussi ma surprise fut-elle grande de voir vers 5 heures arriver Gloriette, un petit paquet à la main. Dans ce petit paquet d'où sortait un peu de plume sanglante était l'oiseau, que Pérolade avait fini par fusiller méchamment, comme il s'y était solennellement engagé. « Ah, Gloriette, fis-je, posez où vous voudrez ce gibier, et venez que nous causions ensemble. » Car l'idée de faire cocu mon meilleur ami Pérolade était de celle que je caressais depuis le plus de temps. Mais au fait, doit-on, peut-on plutôt dire d'un célibataire trompé par sa maîtresse qu'il est cocu? Ce titre nobiliaire, indélébile, immortel survivant des noblesses anoblies, n'est-il pas inhérent à la noble profession du mariage? Et y a-t-il de faux cocuages, justement méprisés, comme il y a de faux ménages, justement mésestimés? Pérolade avait-il l'étoffe sociale suffisante pour cette investiture solennelle? Toutes ces graves questions de haute morale ne m'assaillirent nullement. Ce n'était pas son déshonneur que je voulais, mais simplement les faveurs de Gloriette. Le sage sait modérer ses désirs. Elle ne dit pas non, et se laissa doucement attirer jusqu'au lit, auquel je m'étais stratégiquement adossée, en ouvrant les bras vers elle. Comme par hasard, les draps bâillaient, s'ouvrant sur un double sillon de blancheur. Comment le corset de Gloriette fut vivement dégrafé, sous la feinte résistance de ses jolis doigts s'accrochant aux miens. Comment sa jupe, que soutenait mal la nonchalance de ses mains, tomba ensuite sur mes pieds, les siens étant enfermés entre les miens, dans une très douce étreinte. Comment je détachais furtivement ses jarretières, tirant ensuite les bas, jusqu'au-dessous de sa cheville, dont un dernier effort fit tomber les brodequins. Et comment, durant tout cela, mes genoux pressaient délicieusement les siens, la retenant prisonnière, tandis que je baisais ses cheveux, à leur odorat retroussi, et que son souffle me mettait des frissons sur la poitrine. C'est ce que vos propres souvenirs vous apprendront mieux que moi. Jamais déshabillé ne me fut plus agréable. Un air chaud venait du dehors, et c'était une poussière d'or que tamisaient les rideaux de la croisée, s'ouvrant seulement sur une échancrure d'azur sombre, comme en a seul notre ciel toulousain. Quand, dans leur vol éperdu à travers l'espace nocturne, les âmes de ceux qui furent des amants soulevèrent du vent de leurs ailes le voile de nuée qui cachait la lune à leurs extases posthumes, et que celle-ci leur apparaît dans son ampleur argentée, doucement lumineuse, éphébéenne, à réveiller le sommeil d'Endymion, l'émotion de ces purs esprits, en qui renaît le frisson des sens, doit être considérable. J'ose affirmer néanmoins que la mienne fut au moins égale, quand, de sa chemise envolée, se dégagea la lune héroïque de Gloriette, montagne de neige, crevant les ombres accumulées par l'orage, jardin de lys miraculeusement monté de la terre charmée. Ce fut une heure délicieuse, et qui aurait dû remplir une éternité. Rien n'en troubla la sérénité silencieuse, si ce n'est la fuite d'un chat ayant volé sur la fenêtre, la chasse du malheureux Pérolade. Eh bien, était-ce bon? Me dit celui-ci quand nous nous retrouvâmes, vers 2 heures, au café Albrighi, sur la terrasse où se donnent rendez-vous tous les jeunes harpistes de l'Italie, ce qui en fait un des endroits les plus mélodieux du monde. « Excellent !» lui répondis-je avec une conviction qui lui plut. « Et comment l'as-tu mangé ? Rôti sur une hostie de pain grillé ? Oh non ! Alors avec une larme de citron, dans un fin roux à l'huile d'olive ? Non. Gourmand, dans un coulis de jambon ? Pas davantage. » Pérolade, qui avait des prétentions en cuisine, devint pensif. « Je te donne, » fit-il, « ma langue au chat. »« Tiens, comme moi, » lui répondis-je machinalement. « Tu ne veux pas me dire comment tu l'as mangé ?»« Si, puisque tu y tiens. »« Eh bien, au lit. » Dans un élan de tendresse inquiète, Pérolade me prit la main. « Ah, pauvre, encore obligé de te coucher tantôt. » Que je te plains. Tu as tort. Quel courage. Et se penchant vers le capitaine Robichon qui faisait un sang de piquet, je l'entendis lui dire, avec une satisfaction d'apprenti centenaire. En voilà un qui ne fera pas de vieux os.